Bonjour à chacun. Il y a très longtemps, c'est ce que dit en tout cas l'histoire, plusieurs nobles anglais, dans leurs plus beaux habits, participaient à une chasse à courre, une chasse aux renards. Et c'est ainsi que dans leur déplacement, ils se sont retrouvés devant une barrière fermée. Et à côté de cette barrière se trouvait un jeune garçon. « Ouvre la porte !» ordonna le leader du groupe. « Non, répondit le jeune garçon. Cette propriété appartient à mon père et il m'a ordonné de garder cette porte fermée et de ne l'ouvrir à personne. » Piqué dans sa fierté, le leader répondit « Ouvre la porte, garçon ! Sais-tu qui je suis ?»« Non, monsieur, répondit le garçon. « Je suis le duc de Wellington !» proclama le leader des chasseurs. Sans être impressionné, le jeune garçon répondit « Monsieur, le duc de Wellington est un héros dans ce pays !» et il ne me demanderait jamais de désobéir à mon père. » Sur ce, les cavaliers firent demi-tour. J'aimerais ce matin réfléchir avec vous et méditer avec vous à partir d'un texte qui parle d'obéissance. D'obéissance à Dieu comme étant ce que Dieu attend de chacune de ses créatures, de chacun de ses enfants. Une obéissance, quelles que soient les circonstances, à l'instar de celle du jeune garçon dans notre histoire. Et je vous propose de lire avec moi, soit en suivant la projection, soit dans vos Bibles, un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel. Je lis dans 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 10. 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 10. La parole du Seigneur parvint à Samuel. « Je regrette d'avoir investi Saül de la royauté, car il s'est détourné de moi et il n'a pas exécuté mes paroles. » Samuel en fut fâché. Il cria vers le Seigneur toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller trouver Saül. On lui dit « Saül est allé au Carmel. Il s'y est érigé un monument. Puis il est redescendu au Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni du Seigneur. J'ai exécuté la parole du Seigneur. » Samuel dit « Qu'est-ce donc que ces bêlements de petits bétail qui parviennent à mes oreilles ? Et ces mugissements de gros bétail que j'entends ?» Saül répondit, « On les a amenés de chez les Amalécites. Le peuple a épargné le meilleur du petit bétail et du gros bétail, afin de le sacrifier au Seigneur ton Dieu. Le reste, nous l'avons frappé d'anathème. » Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'annoncer ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit « Parle !» Samuel dit « N'est-ce pas lorsque tu étais petit à tes propres yeux que tu es devenu le chef des tribus d'Israël et que le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël ? Le Seigneur t'avait envoyé en disant « Va et frappe d'anathème ces pécheurs d'Amalécite. Tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté le Seigneur ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui déplaisait au Seigneur ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté le Seigneur et j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai frappé Amalek d'anathème. Mais le peuple a pris le butin du petit bétail et du gros bétail comme prémisse de l'anathème afin de les sacrifier au Seigneur ton Dieu au Gilgal. » Samuel dit, « Le Seigneur Prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Écoutez vaut mieux que les sacrifices. Prêtez attention vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion vaut le péché de divination. Et la résistance vaut le recours illicite au théraphime. Puisque tu as rejeté la parole du Seigneur, il te rejette aussi. Tu ne seras plus roi. Nous arrêtons là notre lecture de la parole de Dieu. Dieu vient de rejeter Saül, le roi Saül. C'est pourtant Dieu lui-même qui l'avait choisi quelque temps auparavant pour être le premier roi d'Israël. Et Saül s'était révélé être un bon roi au commencement. Il avait su dès le départ rallier le peuple pour combattre les Ammonites et les vaincre. Malheureusement, les bons débuts du roi Saül n'ont pas duré. Et rapidement, Saül s'est montré sous son vrai jour, comme un homme instable dont le cœur était finalement loin de Dieu. Et c'est ainsi que Saül va gravement désobéir à deux reprises. Notre passage parle de la deuxième fois. Et c'est ainsi que Dieu va lui ôter la royauté. En quoi consiste la désobéissance de Saül dans notre passage? Dieu lui avait demandé de, je cite le texte, de faire rendre des comptes à Amalek pour ce qu'il avait fait à Israël quand il s'était mis sur son chemin, tandis que celui-ci montait d'Égypte. En d'autres mots, Dieu lui avait demandé de frapper Amalek d'anathème, d'être l'instrument du jugement de Dieu. Et au lieu de cela, Saül avait gardé en vie le roi Agag, ainsi que le meilleur du bétail. Je lis les versets qui précèdent le texte que nous avons lu. Je lis les versets 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il frappa d'anathème tout le peuple et le passa au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que ce qu'il y avait de meilleur dans le petit bétail et le gros bétail, les bêtes de seconde portée et les jeunes béliers, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas frapper d'anathème, pas frapper tout cela d'anathème. Ils ne frappèrent d'anathème que ce qui était méprisable et chétif. Et c'est ainsi, je ne vais pas rentrer dans plus de détails concernant cette désobéissance, mais c'est ainsi que Saül a désobéi. Et c'est ainsi que Dieu l'a rejeté. Et nous savons que c'est à partir de ce moment que Dieu va choisir un autre roi, un homme selon son cœur, le roi David. Saül a désobéi, nous venons de le dire. Mais ce qui est surtout important pour notre propos ce matin, c'est que Saül pensait, à l'évidence, bien agir, ou du moins agir de manière à satisfaire Dieu. Et c'est ainsi qu'il avait gardé du bétail pour offrir des sacrifices à Dieu. Je relis les versets 13 à 15. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni du Seigneur, j'ai exécuté la parole du Seigneur. » Samuel dit « Qu'est-ce donc que ces bêlements de petits bétails qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements de gros bétails que j'entends ?» Saül répondit « On les a amenés de chez les Amalécites. Le peuple a gardé le meilleur du petit bétail et du gros bétail afin de le sacrifier au Seigneur ton Dieu. » Il est difficile de savoir ici si Saül pensait véritablement bien agir, ou alors si Saül savait qu'il agissait mal, mais qu'il pensait qu'il pourrait s'arranger avec Dieu. Il arrive que nous nous trompions sur ce que Dieu attend de nous. Il arrive que nous n'ayons pas compris les voies de Dieu pour nous, ou peut-être pas tout compris. Il arrive que nous nous égarions, que nous fassions fausse route. Il arrive que nous nous fassions des illusions sur ce que Dieu attend de nous. Et nous pouvons parfois mal agir en pensant que ce que nous faisons est juste et agréé de Dieu. Ce fut par exemple le cas pour Saul de Tarse, qui pensait servir Dieu en persécutant l'Église. Ce fut peut-être le cas ici pour le roi Saül. En tout cas, il y a un indice dans le texte qui pourrait nous permettre de comprendre les choses ainsi, c'est le verset 20. Saül répondit, j'ai bien écouté. J'ai bien écouté. Il semble être convaincu d'avoir bien agi. Et j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé. L'évocation de cette possibilité me permet de dire ce matin, de redire une grande vérité, à savoir que la bonne foi, la sincérité n'est jamais gage de vérité. Beaucoup de gens sincères sont dans l'erreur. Il arrive aussi que nous soyons dans l'erreur consciemment, volontairement. Souvent, nous savons au plus profond de nous-mêmes quand cela est le cas. L'Esprit de Dieu en nous met le doigt sur ce qui ne va pas. Nous le savons. Nous en sommes conscients. Et parfois, il arrive que nous persistions quand même dans cette mauvaise voie. Pourquoi ? Parce que nous sommes pécheurs. Et nous restons pécheurs même si Dieu nous a fait grâce. Pourquoi ? Parce que si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Pourquoi ? Parce que parfois nous tombons dans l'erreur de penser que nous pouvons nous arranger avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est facile dans la vie chrétienne aussi de penser que la fin justifie les moyens. Il est si facile et si arrangeant parfois de penser que ce qui compte avant tout, c'est le résultat. C'est l'objectif à atteindre et peu importe le compromis qu'il faut faire pour y arriver. Et c'est ainsi que parfois le chrétien, alors qu'il a un objectif très louable en soi, alors qu'il a de bonnes intentions, se retrouve à désobéir à Dieu, pensant peut-être que Dieu est une sorte d'ami avec qui on peut marchander. J'aimerais vous donner ici un exemple personnel. C'est pas très souvent le cas, mais c'est le cas ce matin. Je vous ai parlé récemment des délivrances que Dieu avait opérées dans ma vie il y a environ 30 ans maintenant. Et quand Dieu m'a délivré de ma folie et qu'il m'a fait grâce, tout de suite, très rapidement, j'ai eu à cœur de témoigner de ma foi, de ce que Dieu avait fait pour moi, à tous mes amis peu fréquentables. J'étais plein de zèle. J'étais prêt à déplacer les montagnes. Il fallait qu'ils sachent ce que Dieu avait fait dans ma vie. N'était-ce pas une intention louable ? N'était-ce pas obéir à Dieu que de témoigner de ma foi ? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas prêt pour cela. Ma foi n'était pas affermie. Le problème, c'est que m'engager dans cette voie-là, à ce moment-là, risquait de m'amener à faire certains compromis. Des compromis, je dois le reconnaître, qui trouvaient une place, un certain écho favorable dans l'ambiguïté de mon cœur et de mes intentions. Et c'est ainsi que j'ai revu mes amis de l'époque. C'est ainsi que j'ai témoigné de ma foi. Et c'est ainsi que je me suis laissé aller à quelques exceptions. Mais n'était-ce pas pour la bonne cause ? Le salut de quelqu'un n'est-il pas plus important que quelques écarts de conduite ? Dieu ne saurait-il pas faire la part des choses ? La vérité, chers amis, c'est que dans la vie chrétienne, dans notre relation à Dieu, dans notre obéissance à Dieu, la fin ne justifie jamais les moyens. L'obéissance à Dieu, l'obéissance que Dieu attend de ses enfants, n'est jamais à géométrie variable. Ce que Dieu veut, et ce qu'il veut toujours, c'est notre cœur tout entier. Et ce qu'il déteste peut-être par-dessus tout, c'est le cœur double, le cœur partagé, le cœur hypocrite. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Non, notre obéissance ne doit pas dépendre de l'objectif à atteindre, aussi louable soit-il. Nous devons toujours nous souvenir que c'est Dieu et Dieu seul qui est toujours le seul garant des résultats. Prendre cela dans nos mains, c'est vouloir se substituer à Dieu. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est notre obéissance. Et c'est lui qui fera le reste. Alors oui, parfois, sous couvert d'objectifs louables, nous pouvons désobéir à Dieu. Nous nous autorisons à désobéir à Dieu. Oui, parfois, dans la conscience de la désobéissance, nous pensons, nous avons la folie de penser, pouvoir nous arranger avec Dieu. Mais quand nous agissons ainsi, nous minimisons la grâce de Dieu. Pire, nous la méprisons. Nous méprisons le prix payé par Dieu, c'est-à-dire la vie de son Fils unique, pour nous offrir sa grâce, qui, elle seule, couvre tous nos péchés et toutes nos désobéissances. Dans les arrangements possibles, il y a aussi tout ce que nous pensons pouvoir faire valoir devant Dieu. Bien sûr, toutes nos bonnes œuvres, tous nos mérites, notre service pour le Seigneur, tout le temps que nous consacrons au Seigneur, toutes les heures que nous ne comptons pas, tous les biens que nous donnons généreusement au Seigneur, tous les sacrifices auxquels nous consentons volontairement. Et nous pensons peut-être que tout cela pèsera assez lourd dans la balance et que cela finira par contrebalancer notre désobéissance, nos écarts de conduite, notre péché. Nous pouvons parfois nous illusionner, perdre notre lucidité et finir par croire que notre bon et fidèle service nous donne des droits devant Dieu, des privilèges, des passe-droits, des compensations. Le Seigneur comprendra. Et pourtant, quand nous avons obéi à Dieu, nous n'avons fait rien de plus que notre devoir. Nous n'avons fait rien d'autre que tenir notre rang de créature. Nous n'avons fait rien d'autre que ce que nous devions faire. Dieu ne nous doit rien et nous lui devons tout. Nous lui sommes redevables de tout. Et nous pourrions ici détourner le fameux verset des Corinthiens, où Paul dit que même s'il parlait les langues des humains et des anges, même s'il avait la capacité de parler en prophète, même s'il avait la science de tous les mystères et toute la connaissance, c'est quand même pas rien, même s'il avait toute la foi qui transporte des montagnes, s'il n'a pas l'amour, vous connaissez ce verset, il n'est rien. Et nous pourrions dire que même si nous servons le Seigneur, même si nous nous sacrifions souvent pour lui et pour son royaume, même si nous donnons généreusement de notre temps, de nos biens et de tout ce que nous avons, même si notre vie est exemplaire à bien des manières, si nous n'obéissons pas à Dieu, cela ne nous sert à rien. Ce qui compte avant tout, ce n'est pas ce que nous faisons, Ce qui compte avant tout, c'est notre cœur devant le Seigneur. Si notre cœur est droit, entier pour le Seigneur, notre service suivra, et nos bonnes œuvres aussi. Jésus a évoqué cette triste réalité du décalage entre ce qui est fait et le cœur. Il l'a fait à la fin du sermon sur la montagne, en parlant de toutes celles et de tous ceux qui feront valoir un jour devant Dieu de bonnes choses, de grandes choses, qu'ils ont faites pour le Seigneur, qu'ils ont même faites au nom du Seigneur. Mais à qui le Seigneur dira cette phrase terrible « Je ne vous ai jamais connu ». C'est le fameux texte de Matthieu 7, je lis à partir du verset 21. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète ? Par ton nom que nous avons chassé des démons ? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Accomplir de grandes choses ne suffit pas à me justifier devant Dieu. D'ailleurs, rien de ce que je fais ou de ce que je pourrais faire n'est suffisant pour me justifier devant Dieu. La justification, c'est un cadeau que Dieu nous offre, un cadeau immérité, qu'il nous offre sur la base de notre foi que nous plaçons dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ce qui compte, je le redis, ce n'est pas ce que nous faisons, ce qui compte en premier, mais c'est notre cœur, c'est notre relation à Dieu. Et si notre cœur est droit, attaché au Seigneur, alors notre service découlera de cela et nos bonnes œuvres suivront. Saül était prêt à faire de grands sacrifices pour Dieu. Petit bétail, gros bétail, bétail de deuxième portée, hein, nous avons lu la liste. Prêt à faire de grands sacrifices pour le Seigneur. Mais ce n'était pas ce que Dieu désirait. Ce que Dieu désirait, c'était son cœur. C'était son cœur sans partage. Ce que Dieu désirait, c'était son obéissance. Et c'est en réalité ce que Dieu attend et exige de tout homme. Il exige sa soumission à sa volonté. Mais depuis la chute, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, l'être humain n'est plus en capacité de faire pleinement et parfaitement la volonté de Dieu. La désobéissance de nos premiers parents a faussé la donne. Elle a mis le germe de l'insoumission à Dieu au plus profond de nous-mêmes. Et notre cœur est devenu tortueux par-dessus tout, dit l'Écriture. Et par nature, nous sommes des enfants rebelles à Dieu, qui suivent leur propre voie. Seule la parfaite obéissance du Christ pouvait rétablir cette communion perdue. Seule la parfaite obéissance du Christ, jusqu'à la mort de la croix, pouvait nous offrir un cœur nouveau. Seule la parfaite obéissance du Christ pouvait satisfaire la justice de Dieu et ainsi nous offrir la justice du Christ par la foi, comme le cadeau de son amour pour nous. C'est ainsi que le croyant qui met sa foi en l'œuvre parfaite du Christ, en sa parfaite obéissance, devient une nouvelle création et reçoit un cœur nouveau, un cœur régénéré, un cœur purifié. Et c'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Ancien Testament. Je cite ici le prophète Ézéchiel, mais nous la retrouvons à d'autres endroits dans l'Ancien Testament, qui parle de l'œuvre de transformation intérieure que Dieu allait accomplir pour son peuple et pour tous ceux qui mettraient foi dans le Messie. Je vous aspergerai d'une eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre cœur de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. Un cœur nouveau. Quelle grâce! Quelle grâce merveilleuse de Dieu pour nous. Mais nous devons bien comprendre ici que si le cœur est nouveau, la chair reste là. La chair demeure. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette bataille en nous. C'est la raison pour laquelle Jésus dira que si l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais ceci dit, avec son cœur nouveau, le chrétien, l'enfant de Dieu, est maintenant en capacité d'obéir à Dieu. En capacité d'obéir à Dieu s'il fait le choix de marcher par l'esprit et non plus par la chair. Je vous renvoie au 5e chapitre de l'Épître aux Galates, si vous voulez un petit peu creuser cette question. Mais cette capacité nouvelle qui est liée au cœur nouveau que Dieu a mis en nous ne nous est pas donnée comme une option. C'est pourquoi Dieu attend et demande de nous notre pleine obéissance. La difficulté pour nous, en tout cas, je crois que ça complique un peu les choses, c'est que nous vivons dans un monde, dans une société où tout est de plus en plus affaire d'options. Et nous sommes de plus en plus formatés ainsi. Vous achetez quelque chose et c'est toujours après une question d'options. Vous pouvez acheter un modèle de voiture, mais ce qui fera la différence, c'est les options que vous allez choisir entre tel modèle et tel autre. Et nous le constatons dans notre vie, beaucoup de choses sont aujourd'hui optionnelles, facultatives, à la carte, au bon vouloir de la personne. Et nous sommes habitués à ce que tout autour de nous fonctionne ainsi. Mais il n'en est pas de même avec Dieu. Il n'en est pas de même avec l'obéissance de notre cœur. Dieu ne s'accommode pas du partage de notre cœur. Dieu ne s'accommode pas d'être une option parmi d'autres. Dieu ne s'accommode pas de nos faux-semblants, de notre religiosité, de nos façades, de nos hypocrisies. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur tout entier. C'est notre pleine obéissance, toujours. Jamais en option. Ce que Dieu veut, c'est que nos actes soient en harmonie, en cohérence avec notre cœur, avec ce que nous croyons et ce que nous professons. Et c'est ainsi que, je le redis, ce que Dieu déteste peut-être parmi tous, c'est l'hypocrisie. C'est cette incohérence maintes et maintes fois dénoncée par les prophètes de l'Ancien Testament, maintes et maintes fois dénoncée par Jésus lui-même. Il y aurait ici beaucoup de textes pertinents à lire. L'homme se contente, nous le savons, très souvent des apparences. Il peut ainsi assez facilement tromper son prochain, mais pas Dieu. Pas Dieu qui voit le cœur. Et dans ce même livre de Samuel, vous savez qu'il y a cette parole très connue que Samuel va citer au moment où il fait passer les fils de Jessé devant lui. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur n'est pas abusé par nos façades. Et il voit au-delà de nos apparences, au-delà de nos services et de nos sacrifices s'ils sont hypocrites. Et c'est ainsi que Dieu voyait le cœur de Saül. C'est ainsi qu'il a pu dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est le verset 22 de notre texte qui est le verset clé de ce passage. Le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Écoutez vaut mieux que les sacrifices. Prêtez attention vaut mieux que la graisse des béliers. Alors nous devons nous poser la question ici, Dieu est-il contre les sacrifices? Absolument pas. Mais il est contre les sacrifices qui cachent un cœur qui est loin de lui. C'est pourquoi ce qui compte, c'est le cœur. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et c'est peut-être ce que vous retiendrez et c'est voulu. Ce n'est pas en premier ce que nous faisons, mais c'est en premier ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes et de notre relation à Dieu. Et si notre cœur est au Seigneur, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais si nous sommes attachés, et on le voit bien, David était un homme au cœur entier, un homme selon le cœur de Dieu, et on sait son parcours, mais il était pleinement attaché au Seigneur. Et c'est cela qui est important. Il y aurait ici bien des choses à dire sur la différence entre les sacrifices de notre texte et ce que nous pourrions dire de nos propres sacrifices, mais ça nous emmènerait trop loin et je dois maintenant terminer. J'aimerais terminer simplement en soulignant que ce texte et ce message nous amènent à une grande vigilance, que nous devons exercer jour après jour dans notre vie, celle de garder notre cœur. Garder notre cœur. Et nous avons ce beau texte dans le livre des prophètes, des proverbes, pardon, au chapitre 4. « Mon fils, prête attention à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont vie pour ceux qui les trouvent, santé pour tout leur corps. » Et puis le verset 23, que j'aurais dû mettre en police plus grande, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est vraiment cela qui compte. Et c'est cela que j'aimerais vous laisser ce matin, de tout ce qui a été dit. L'avons-nous compris? Y veillons-nous dans notre propre vie? Peut-être nous pouvons en faire un objectif pour cette semaine. Et le Seigneur veut nous aider à le faire. Il n'est pas celui qui met la barre tellement haut que nous ne pouvons jamais l'atteindre. La barre est haute, mais avec son secours, nous pouvons y arriver. Et David l'avait compris quand, à la fin du psaume 139, il écrit ces deux versets, cette prière que nous connaissons tous et qui résume parfaitement et qui conclut ce message. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Il est celui qui voit au plus profond de nous. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Il est celui qui comprend les difficultés que nous vivons et nos circonstances. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que le Seigneur accomplisse cette œuvre de grâce pour chacun de nous. Qu'il nous accorde non seulement de le laisser mettre le doigt là où ça ne va pas dans nos vies, mais aussi une fois qu'il l'a fait, qu'il nous accorde l'humilité de reconnaître nos fautes devant lui et puis qu'il nous accorde le vouloir et le faire pour marcher de progrès en progrès sur le chemin de l'obéissance. Amen. Je vous invite à quelques instants de méditation silencieuse.